Bonjour. Alors, l'avenir appartient aux hybrides, mi-hommes, mi-machines, que les dieux de la biomécanique protégeront. Demain, nos identités seront autant biologiques que numériques et nos esprits se téléchargeront. Qui oserait nier cette perspective transhumaine, à moins qu'elle ne soit, comme toutes celles qui l'ont précédée, qu'un outil idéologique. Pour nous en parler aujourd'hui, nous avons avec nous Fabien Guillemot, président fondateur de Poietis, qui dispose d'une expérience de plus de 15 ans dans le domaine de la médecine régénératrice. Il a été nommé chargé de recherche à l'INSERM en 2005. Et en 2014, il fonde Poietis, la première société française de bioimpression. Et je compte sur vous pour nous expliquer ce que cela peut bien être. À côté de moi, Xavier Mauméjean, romancier, dramaturge, novelliste, éditeur, membre du Collège de Pataphysique, dont le dernier roman, Kafka à Paris, rencontre un succès plus que mérité. Pierre-Paul Durastanti, traducteur, novelliste rare, critique et membre de la rédaction du journal de Bifrost. Et enfin, last but not least, Raphaël Granier de Cassagnac. Écrivain, physicien des particules, il cherche à caractériser le plasma, le quark et le gluon du trou. Ah non, pas celui-là. Non, ça c'est dans Téléchat. C'est un état dans lequel était l'univers pendant les premières microsecondes après le Big Bang. Il est également directeur d'ouvrage et son dernier roman, Thinking Eternity, il me semble, est nominé au prix européen des Utopiales. Alors, nous allons passer tout de suite à la première question. Et voilà. Depuis les attelles retrouvées dans les grottes préhistoriques, en passant par les lunettes jusqu'au pacemaker, l'homme se répare en utilisant des matériaux et des techniques extérieures à lui-même. Il se répare en s'augmentant parfois, tel le capitaine Crochet dont le moignon devient une arme bien plus efficace que sa main. Dans la SF, Steve Austin, Robocop, ne se contentent pas de se remettre de leurs accidents. Ils deviennent Quitus, Fortus, Altus, le vieil idéal olympique. Il est poussé à son point culminant. Alors, dans la réalité consensuelle, sommes-nous en train de passer de l'homme réparé à l'homme augmenté, ou est-ce que c'est déjà fait? Qui veut répondre?
T'as oublié Pistorius dans ta, dans ta liste.
C'est donc un jazzman, non, ça?
Non, Pistorius, le coureur du 100 mètres avec les jambes,
oui,
qui est presque augmenté. Hein, je ne sais plus quel est son temps, mais il n'est pas si loin de pouvoir concourir avec les humains normaux, quoi. Donc, du côté des prothèses, je pense qu'on va pas tarder à voir des prothèses concrètes qui nous donnent des capacités plus grandes que celles qu'on a sans elles, quoi. Comme le capitaine Crochet.
C'est vrai que d'un point de vue, on va dire des sciences médicales, la question de la frontière entre la réparation et l'augmentation fait énormément débat. Globalement, la plupart des acteurs, et notamment l'INSERM, parce que j'interviens aujourd'hui au titre de l'INSERM, se focalisent et se positionnent sur des perspectives de réparation, c'est-à-dire qu'on va proposer et développer des prothèses, des implants, des systèmes qui vont permettre de recouvrer des fonctions qui ont été perdues dans le cas d'un traumatisme ou d'un accident ou d'une pathologie. La question de l'augmentation, c'est donc de dépasser ces limites préexistantes par l'usage donc de systèmes. Et c'est vrai que la puissance, à la fois la compréhension en fait de la biologie, de l'interface chimie, biologie, physique, biologie, la puissance aujourd'hui des outils numériques, l'interfaçage de l'électronique et de la biologie, fait que la question se pose d'un accès à des systèmes qui permettraient d'améliorer les performances des humains à une échéance qui est sans doute assez proche. Après, effectivement, se pose un certain nombre de questions éthiques autour de ces approches. Mais c'est vrai que d'ores et déjà, par exemple, connaissance de tous les travaux qui sont menés sur des implants rétiniens ou d'autres systèmes de qui aident à la visualisation. On pourrait se dire que dans un futur pas forcément si lointain, que l'homme se dote d'une capacité de voir dans un champ spectral plus important qu'aujourd'hui. Globalement, on voit dans le spectre visible de à peu près 400 à 800 nanomètres, mais on pourrait se dire que on pourrait élargir cette fenêtre de vision, voire un peu plus dans l'infrarouge ou à d'autres fréquences. Ce qui pourrait conférer à certains, en tous les cas, un avantage si cette capacité ne serait donnée qu'à certains. Et ça, on peut l'imaginer via différentes approches. Ça peut être des approches, on va dire, plutôt mécaniques ou, on va dire, de matériaux, par exemple l'usage de lentilles, et d'autres approches qui sont plutôt biologiques, organiques, donc réaliser des tissus qui seraient dotés de performances supérieures à celles que la nature et l'évolution nous a dotées.
Et l'esthétique ?
L'esthétique, oui, après c'est relatif. Est-ce que c'est de l'augmentation ou pas? Je ne sais pas. C'est une vraie question.
Moi, j'étais, je peux prendre. J'étais sur une table ronde avec toi un peu plus tôt, et donc tu fabriques des morceaux de peau qu'on pourra bientôt se greffer sur la peau, n'est-ce pas? J'ai envie de te demander, est-ce que tu peux pas nous rajouter des choses dans ces morceaux de peau qui nous augmenteraient? Une petite peau en Kevlar, par exemple, quelque chose comme ça ou...
C'est vrai que ce qu'on développe au sein de Poietis, donc, qui est la première société d'impression 3D de tissus biologiques, donc ce qu'on appelle la bioimpression, aujourd'hui, on cherche à fabriquer de la peau. Bon, les premières applications, c'est des applications de cosmétiques. Donc ces morceaux de peau servent à évaluer l'efficacité d'un actif ou sa toxicité. C'est aussi vrai pour la pharmaceutique, mais c'est vrai qu'on peut se dire qu'à terme, on pourra intégrer ou éventuellement intégrer des ingrédients qui peut-être amélioreront la capacité de filtration, peut-être la capacité à supporter certains rayonnements ou autres. On peut effectivement, par le couplage en fait d'outils de nouveaux matériaux, de systèmes électroniques avec la biologie, effectivement le champ des possibles semble de plus en plus important. Et c'est vrai que ça forcément, et c'est ce qu'on essaie de militer en tous les cas, c'est la création de débats autour de ces questions, parce que c'est effectivement des loin pour nous, on est à une étape assez singulière dans l'humanité de pouvoir se doter de capacités assez extraordinaires.
Et on peut attendre de réelles innovations, je veux dire, des choses que nous n'avons pas rêvées depuis l'Antiquité, genre se rajouter des ailes, etc., quelque chose de totalement nouveau.
Je ne sais pas, rajouter des ailes, on n'y a pas réfléchi. Par contre, je pense que c'est intéressant de rappeler comment on procède, et la question d'un développement d'un implant, qu'il soit biologique ou mécanique, se fait sous deux angles. Un, le premier critère, c'est le développement d'une fonction particulière. Et le deuxième critère, c'est la biocompatibilité, l'acceptation par l'organisme du système qu'on va implanter. On appelle ça biocompatibilité, donc il ne faut pas créer de rejet, par exemple, d'un implant tel que c'est vu traditionnellement. Donc si on voulait se créer des ailes, effectivement, il faudrait pouvoir imaginer à la fois un système qui permette de supporter de réaliser cette fonction. Deuxièmement, un système qui permette de s'interfacer complètement avec le corps. Mais je dirais qu'avec des approches purement mécaniques, un petit moteur simplement accroché sur le dos, on pourrait peut-être avoir la même fonction, sans passer par des... Au final, on arrive comme ça à avoir des ailes. Donc, je vois, pour moi, c'est pas forcément de la question de là de l'humain augmenté, c'est simplement se doter de nouveaux outils mécaniques qu'on peut facilement s'enlever et qui seraient éventuellement en plus accessibles au plus grand nombre.
Ça, c'est tout le problème. James Blish, dans Aux hommes les étoiles, envisage une humanité plurielle, aux formes et aux besoins, et même biologie, parfois fondamentalement différents, mais qui toutes se rassemblent autour du pavillon commun de l'humanité. Aujourd'hui, la SF peut-elle encore envisager une humanité modifiée de cette façon optimiste ? Y a-t-il une rupture, un changement de paradigme, et à votre avis, pourquoi ?
Moi, je crois que...
On ne t'entend pas, Pierre-Paul.
Je crois que ce qui est intéressant avec le concept même d'homme augmenté, c'est que les gens le prennent souvent comme une rupture, alors que c'est simplement la continuation par des moyens différents de quelque chose qui existe depuis l'aube de l'humanité. L'homme s'est toujours augmenté. L'homme a maîtrisé le feu pour augmenter sa capacité à voir la nuit, pour résister au froid, pour cuire ses aliments, à créer des outils, et donc finalement il y a simplement un processus un processus de complexification qui fait que oui, on peut en quelque sorte admettre maintenant que nos outils, comme l'expliquait mon voisin, seront intégrés au corps humain. Et mais à ce moment-là, on peut aussi imaginer que ces outils seront intégrés à l'esprit humain. On a tout un sous-genre de la science-fiction, le cyberpunk, qui parle de l'interface cerveau-machine, par exemple, entre autres, bien entendu. Et donc, on peut imaginer. Donc, dans la science-fiction, ce traitement est d'abord relativement récent, dans cette idée de choses qui sont intracorporelle ou même intracrânienne. Jusqu'à présent, enfin jusqu'aux années, disons, 70-80, les augmentations étaient purement mécaniques et elles étaient extérieures. Maintenant, même s'il y avait déjà effectivement des expériences de pensée sur des biologies différentes et ce genre de choses, mais en général, c'était une rencontre de l'autre. Tandis que l'homme augmenté, c'est l'altérité pénètre dans l'être humain. Et donc, c'est un changement de paradigme. Et oui, il y a toute une, je dirais pas une école, mais il y a un certain nombre d'auteurs qui ont réfléchi à ces postulats. Les deux premiers qui me viennent à l'esprit sont Ted Chiang et surtout Greg Egan, deux auteurs anglo-saxons, qui ont effectivement envisagé cette possibilité. Auparavant, l'homme augmenté était un accident. Il était le résultat d'une mutation, donc le résultat d'un accident, du hasard. Là, il devient le résultat d'un processus contrôlé, en tout cas contrôlable. Pas forcément contrôlé, mais contrôlable. Donc, il y a une reprise du pouvoir de l'homme sur sa propre destinée. Et ces nouveaux auteurs, qui sont, disons, qui écrivent depuis les années 80, on va dire, ou ces gens-là, Varley, même dans les années 70, a commencé à approcher ces thématiques. Ces nouveaux auteurs, donc j'ai dit Ted Chiang, Greg Egan, Varley, on pourrait parler de Ken Liu, de gens comme ça, sont capables. Bon, j'avoue, j'ai une culture assez anglo-saxonne par mon métier qui fait que j'oublie peut-être des auteurs français, probablement toi d'ailleurs. Mais donc, hein ?
C'est pas 1980, tu peux tranquillement.
Bon, d'accord. Et donc, du coup, effectivement, on a une approche science-fictive différente, en ce sens qu'elle intègre une nouvelle qualité de non seulement de vie mais de qualité de pensée qui, justement, je le répète, n'est plus le fruit d'un accident mais le fruit d'une évolution voulue. Et c'est ça la différence. L'homme augmenté, c'est l'homme qui se veut augmenter. Et c'est ça, à mon avis, le grand changement qui se produit au niveau à la fois des textes, mais aussi, très visiblement, au niveau de la recherche scientifique ou technologique pure, quoi. Et ça, c'est une révolution très importante. Je pense qu'on n'en envisage pas encore les plus petites conséquences.
Alors, tu m'amènes directement à ma question suivante. La scarification, le piercing, le tatouage... L'homme joue avec son image, il joue avec l'état de l'homme. Aujourd'hui, le biohacking poussera encore plus loin cette logique. Et dans l'ASF, les hommes transparents d'Olivier Paquet, les chimères sirènes de Sylvain Chambon dans l'anthologie 42. Ça, c'était la pub copinage. Les hommes qui se découpent pour le plaisir dans Paolo Bassi Galuppi, sans mettre leur vie en danger, ils mettent en lumière l'infinie variation autour de ce thème. Mais on pourrait également modifier notre chimie digestive pour, je ne sais pas, être capable de digérer la cellulose ou se modifier tout à fait mécaniquement comme dans une nouvelle dont j'ai oublié l'auteur, mais où on fait vivre les hommes de plus en plus en altitude afin de préparer les nouveaux martiens. Donc du coup, ils vont pouvoir respirer un air raréfié. Ce sont des visées enthousiasmantes, a priori. Et pourtant, à travers son corps, l'homme touche à un tabou, on dirait, qui est peut-être un vieux tabou judéo-chrétien, puisque dans la Bible, il a été créé à l'image de Dieu, n'est-ce pas, l'homme. Donc, lorsqu'il touche à son corps, il touche à l'image de Dieu. Est-ce que c'est un des points d'achoppement que peut rencontrer le transhumanisme, par exemple, ou même le post-humanisme? Et quelles seraient les tensions entre ces deux termes? Ça, c'est pour toi. Celle-là, elle est pour vous, monsieur.
Oui, alors, c'est évidemment une table ronde passionnante. Comment s'appelle l'athlète qui a des jambes en... je vais répondre, mais je vais synthétiser avant. Qui a les jambes en lame d'acier.
Pistorius.
Ce qui est très intéressant, et je pense que c'est très important, c'est que Pistorius est allé en prison pour une histoire de cul. C'est-à-dire que ce corps augmenté, ce corps métallique, ce corps capable de prouesse, bascule dans le crime à cause de la chair. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui a été dit, moi, évidemment, me passionne, mais finalement, il me semble, et je suis assez d'accord avec Pierre-Paul, comme souvent d'ailleurs, en fait, c'est la reconduction du même. Il y a un changement quantitatif, c'est certain, pas qualitatif. Ça participe toujours de la même idée qui est la réappropriation de son corps. Le fait que je nais avec un corps qui n'est pas moi, c'est un corps subi, un corps passif, et je vais le faire mien. Je vais le faire mien, tu l'as très bien dit, avec les tatouages, ça peut être avec le maquillage, les coupes de cheveux, etc. Et ce n'est qu'une duplication qui augmente de la même préoccupation qui est de faire ce corps mien. Tout à l'heure, tu parlais de Steve Austin. Moi, il y a un truc qui me plaisait beaucoup, c'était chez Super Jimmy, qui avait une super ouïe. Quand elle devait entendre de très loin, elle ramenait sa mèche de cheveux derrière. Ce qui est intéressant, c'est un peu comme Pistorius, c'est que le corps, la chair, c'est-à-dire le substrat de tout ça, est toujours là. S'il ramène ses cheveux derrière, c'est que le corps n'est pas oublié. Or, je crois que c'est en 2006, pour le journal Libération, j'avais couvert le cas Matthew Nagel. Matthew Nagel, c'est un des premiers qui s'était fait implanter ces cybernetics neurotechnologies, qui lui avait implanté un bras avec raccord neuronal au cerveau. Et ce qui était intéressant, c'est que tout le monde disait putain, Matthew, t'as un super bras. Matthew, c'est vraiment bien et tout. Et Matthew Nagel, qui n'avait pas été préparé psychologiquement à ça, qui avait une connexion neuronale, mais ne savait pas quoi en faire, a basculé dans une profonde dépression, en fait. Parce qu'on n'arrêtait pas de lui dire que ton bras, il est vraiment bien, il est relié à ton cerveau. Et Matthew Nagel a fini par dire « Mais j'avais déjà un bras relié à mon cerveau avant. Vous êtes en train de me dire que je suis comme vous, sauf qu'il a fallu passer par là et que je suis pas prêt. » Et effectivement, je suis d'accord, tout ça remonte au primat du corps qui est d'origine peut-être religieuse, qui est cette fameuse idée que l'homme est fait à l'image de Dieu. Alors, bien sûr, à l'image de Dieu ne veut pas dire qu'il a à la fois un pénis et des seins. C'est à l'image spirituelle de Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu lui-même est fait à l'image de l'homme dans la tradition judéo-chrétienne. C'est que vous avez, par exemple, dans la théologie protestante, tout un courant de pensée qui s'interroge sur le pourquoi de l'incarnation. Pourquoi Dieu s'est incarné en son fils? Tout simplement parce que Dieu pouvait comprendre intellectuellement, puisqu'il est un pur esprit, un esprit parfait sans limite, pouvait comprendre ce qu'était la mort, il ne pouvait pas la vivre. Or, nous tous ici vivons notre mort, subissons notre mort. Et donc, l'incarnation de Dieu dans un corps était la seule possibilité qu'il ait de vivre la mort et de enfin comprendre C'est-à-dire littéralement comprendre, de prendre en soi la peur, l'angoisse et finalement la richesse de la vie de ces créatures. Et je pense que, en fait, ce qui sous-tend tout ça est probablement au fil de, des siècles débarrassés progressivement de l'élément religieux, c'est la nécessité tout simplement d'assumer son corps, d'endosser son corps, de le faire mien. Et même si ça peut pas être hors sujet, je vous conseillerais un livre qui va peut-être toucher des gens ici d'ailleurs, qui s'appelle Se blesser soi-même, qui est un livre de Baptiste Brossard, qui est une enquête sur l'automutilation chez les adolescents. Et qui est un ouvrage absolument... C'est une enquête, hein, avec des témoignages... c'est pas du tout théorique, ça repose sur... et qui se pose la question pourquoi beaucoup d'adolescents s'automutilent, et qui, en fait, dont les résultats sont totalement surprenants, puisqu'on ne s'automutile pas de la même façon qu'on se tatoue, puisque quand on se tatoue, qu'on se marque, c'est pour s'exhiber, se montrer. Celui qui s'automutile le fait discrètement. En général, il utilise des stratégies pour cacher son automutilation. Et il y a des raisons absolument justifiées à l'automutilation, en fait, qui sont très intéressantes, comme notamment de dévier une douleur pour pas avoir endossé une douleur plus grande. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que alors qu'on salue la modification en profondeur de l'homme augmenté dans la société, il y a un discours optimiste et unanime autour de la modification du corps, on dénie la possibilité artisanale dans sa chambre, avec des moyens non technologiques, de mutiler, de transformer son corps pour des besoins intimes et personnels. Et il y a une sorte de paradoxe qui est assez gênant dans le fait qu'on puisse refuser à quelqu'un d'endosser son corps par une décision personnelle et sous son seul regard, alors qu'il y a une sorte de holà et de joie. Et c'est absolument rien contre le travail qui est fait, hein, je sais pas, mais et qu'il y a une sorte de holà et de joie et d'optimisme pour une lourde modification sociale qui fait rêver, en fait, les parents de ses enfants. Voilà. Tout ça est donné à trac, en vrac, probablement sans ordre, mais je crois que c'est tellement important ce qui est dit dans cette table ronde qu'il faut peut-être aussi en voir les éléments plus critiques, en fait. On ne peut pas assumer une modification lourde et refuser une modification simple.
Ouais, enfin, sur la question que tu posais tout à l'heure sur l'image de Dieu, qui est une personne envers qui je suis pas très très fan, mais bon.
Mais j'ai pas d'amis imaginaires non plus.
Non. Mais alors d'abord c'est un truc qui je pense qui est comme tu l'as dit, hein, qui est assez judéo-chrétien. Et justement tu parlais de scarification de tatouage et tout ça. Je pense que dans la société judéo-chrétienne on voit que le tatouage se démocratise de façon absolument incroyable. Et c'est peut-être le premier pas justement contre casser cette. Je veux bien te croire qu'il y a effectivement un frein sur. Qui est lié à l'image de Dieu, mais ce serait peut-être un premier pas justement pour casser ce frein et un premier pas pour aller vers les augmentations cybernétiques. D'ailleurs, dans mon bouquin Seeking Eternity, il y a à peu près la même liste que toi avec scarification, tatouage. Je crois que j'ai rajouté le silicone aussi, qui est une autre chose qui augmente.
Bizarrement, je l'ai lu ton livre.
Concrètement, une fraction de la population et qui est extrêmement populaire. Bon, Dieu, je pense que les gens, beaucoup de gens, peut-être à tort d'ailleurs, n'ont pas l'image de Dieu comme étant une femme, mais néanmoins. Bon. Je pense que la porte est complètement ouverte. Hein. Je pense que le jour où ce sera facile d'avoir des implants cybernétiques, comme pour les tatouages, je pense qu'on va se jeter dessus assez sauvagement dans la société moderne. Il y a maintenant, là, je suis d'ailleurs moi-même tenté d'aller me faire greffer une puce ici, là, d'identification. Là, il y a des puces parties à Paris pour commencer à faire ça. Et j'ai des collègues qui veulent y aller, quoi. Donc ça commence, commence à se passer des choses, quoi, de ce côté-là. Puis bon, l'exemple que tu as donné est encore plus criant, mais donc moi, je pense que l'image, c'est probable qu'il y ait un lien avec l'image de Dieu, mais je pense qu'on est en train de la dépasser, en tout cas, par rapport à ça, et qu'on va joyeusement s'automutiler pour s'augmenter tous ensemble, quoi.
Peut-être s'auto-augmenter. Pierre-Paul, tu voulais dire quelque chose ?
Ce serait plus une réflexion, à une espèce de piste de réflexion, c'est que ce qu'on remarque quand il y a une évolution sociétale, c'est qu'elle engendre toujours sa propre réaction. On a une plus grande libéralisation des mœurs et on a en même temps des gens qui se focalisent justement sur cette libération des mœurs, qui essaient de la combattre. L'avortement ne passe pas toujours bien, l'homosexualité ne passe pas toujours bien, le mariage pour tous, etc., etc. Et donc, et on a un retour du, et on a de manière très importante et pas uniquement au Moyen-Orient, un retour du fait religieux extrêmement important. Donc, à mon avis, à partir du moment où on va voir se développer toutes ces technologies ou toutes ces techniques ou même des disciplines mentales qu'on pourrait imaginer susceptibles de modifier aussi bien le corps que l'esprit, on va avoir en même temps une réaction probablement très vive de gens qui vont se proposer comme étant des conservateurs de l'espèce humaine et du corps humain. Alors oui, ils diront que l'homme est créé à l'image de Dieu et qu'on n'a pas à modifier cette image. Oui, on aura l'espèce de vision un peu new ageiste qu'on entend dans la société américaine qui dit « ton corps est un temple, il faut que tu le respectes », etc., etc. L'idée même, enfin le vocabulaire même, « ton corps est un temple », ça veut tout dire. Donc, à mon avis, on peut à la fois attendre avec une certaine espérance ces évolutions parce qu'elles vont apporter un mieux vivre à des tas de gens. Encore faut-il que le coût soit accessible, parce que sinon on va aussi obtenir une société à plusieurs vitesses avec les gens qui seront capables de se faire augmenter, de se faire modifier, et ceux qui n'en seront pas capables financièrement, par exemple. Donc on va avoir à la fois une hiérarchisation différente de la société qui sera toujours selon le même modèle économique, c'est-à-dire ceux qui en auront, et ceux qui n'en auront pas en auront encore moins. Et d'autre part, en même temps, ça va générer des oppositions plus ou moins vives. Donc c'est extrêmement fécond au niveau intellectuel, notamment pour fournir des tas et des tas et des tas de sujets de science-fiction. Pour le confort, pour notre confort à nous et le confort de notre société, le débat reste nettement plus ouvert, à mon avis.
Xavier ?
Oui, juste une petite chose. Une erreur serait de croire que la mutilation ou la transformation du corps soit opposée à la religion chrétienne. Pas du tout, bien au contraire. La religion chrétienne non seulement encourage, mais favorise la transformation et la mutilation du corps masculin. Par exemple, les stigmates sont quelque chose qui est une reconnaissance de la foi, manifestation physique de la foi. Les plaies portées par le Christ lors de la Passion sont extrêmement codifiées, font l'objet d'une imagerie extrêmement constante. Ce qui est intéressant, c'est que la transformation du corps masculin, jusqu'à d'ailleurs la transformation du Christ lui-même lors de l'Eucharistie, sont extrêmement encouragées, mises en scène, imagées, etc. Ce qui est intéressant, le dernier tabou, et ce qui est intéressant, c'est que même dans l'augmentation du transhumain, c'est souvent un corps masculin qui est mis en scène. Le tabou, c'est le corps féminin. Et là aussi, il a un substrat religieux, puisque ce qui est intéressant, par exemple, dans l'Immaculée Conception, c'est que le corps de la femme, le corps de Marie, n'est pas touché. Il demeure intègre. C'est saint Thomas d'Aquin qui disait que l'Esprit Saint a traversé l'hymen de Marie comme la lumière du soleil traverse la fenêtre sans la briser. Et ce qui est intéressant, c'est que... je prends l'exemple aussi parce que je sais qui j'ai à côté. C'est de l'auto-provocation directe. Mais ce qui est intéressant aussi, moi j'aimerais bien avoir une réponse, c'est pourquoi la modernisation du corps, c'est une modernisation d'abord masculine.
Tu voulais parler juste avant, mais tu...
Ouais, je voulais juste rebondir sur un de tes premiers propos sur le fait que la chose transhumaniste faisait l'objet d'un certain holà, ou en tout cas était vue avec une certaine empathie ou sympathie. C'est quelque chose qui me surprend, parce qu'au final, je me positionnerais plutôt dans le camp des conservateurs. Et notre activité, même industrielle, se positionne dans ce champ-là, c'est-à-dire de la réparation tissulaire, et pas chercher à vouloir augmenter nos propriétés telle que la nature nous en a doté.
À gauche immédiate, il y a monsieur veut se greffer une puce.
Oui, mais on peut débattre et on discutera sans doute après. Ma position, c'est que c'est extrêmement inquiétant, parce que j'aurais tendance à dire que, peut-être de façon très pessimiste, que naturellement, ces évolutions déboucheront sur des niveaux où, en tous les cas, que seulement certaines parts de la population pourront se doter de ces outils. Ça me paraît même évident. Et donc, ça veut dire que d'un point de vue des comparaisons entre les hommes, ou en tous les cas, on irait jusqu'à la création de nouvelles normes. C'est-à-dire, pour reprendre l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, de système oculaire, de cornée qui serait plus filtrante, serait la nouvelle norme. Et une fois que, si ça, c'est la nouvelle norme, qu'est-ce qui se passe? Il y a ceux qui en sont dotés et les autres. Et si ceux qui en sont dotés le sont par le fait, parce qu'ils habitent un certain territoire, ou alors parce qu'ils sont dotés de certains moyens financiers, se posent vraiment des grosses questions. Après, la question que je me pose, c'est pourquoi, si vous le dites, et je vous fais confiance, pourquoi le transhumanisme est si, apparaît si cool ou, dans nos sociétés actuellement, et, alors que personnellement, je trouve l'idée pas du tout cool, en fait. Je ne sais pas si tu as...
Personnellement, j'avais plutôt l'impression que c'était justement plutôt le pas du tout cool qui apparaissait. Hein. Et pour te répondre, je ne suis pas intervenante, mais quand même, je suis désolée, mais c'est déjà le cas. Je suis désolée, je n'ai pas les moyens de me payer les mêmes lunettes que les Rothschild. Je ne serai pas, pour mon cancer du poumon, soignée mieux que les grands riches de la planète. Et si j'ai le moindre pépin de santé là maintenant, c'est aux urgences que je vais attendre qu'on s'occupe de moi. Sachant que, comme le disait très justement Xavier il y a 5 minutes, en plus, je suis une femme. Et que donc, les études sociologiques démontrent que ma douleur à moi sera minimisée par rapport à celle des hommes. Je ne serai pas prise au sérieux. Je pourrais, à moins de saigner à gros bouillon, tant que je ne ferai que brailler, tout le monde s'en foutra.
Mais dans tous les cas, si on regarde les registres démographiques, en 1700, les gens pouvaient vivre jusqu'à 100 ans, ça se voyait. Sauf que, globalement, du fait de la mortalité infantile, notamment, l'espérance de vie était très faible. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que l'espérance de vie augmente dans nos sociétés, même si elle a tendance à reculer du fait de notre hygiène, notamment, et de ce qu'on peut manger. L'âge maximal de vie reste à peu près le même, en dépit de toute l'évolution de la biologie moléculaire, des biomatériaux, de toutes les disciplines technologiques. La vie, on atteint un plafond. Par contre, ce que pose comme question le transhumanisme, c'est l'immortalité. Moi, c'est tout quand, notamment transhumaniste américain. Et là, c'est complètement autre chose, en fait.
Et là, là justement, on va à ma question, je vais dire cruciale, c'est que...
Alors attends, je voudrais répondre sur le homme-femme. Là.
Ah, réponds sur le homme-femme, vas-y.
Parce que je réfléchis à ce que tu disais tout à l'heure, je ne suis pas sûr que la question de... Le fait qu'on ait plus d'hommes augmentés dans la littérature que de femmes augmentées soit propre à l'augmentation, en fait. C'est dans les récits de fantasy, il y a d'abord des guerriers, puis après des amazones... Il y a une espèce de sexisme naturel dans tous les dans toutes les visions un peu héroïques qu'on retrouve un peu partout. Et même au-delà de ça, c'est peut-être bête hein, ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que les femmes, concrètement aujourd'hui, sont plus à même à modifier leur corps que nous. Et je le citais tout à l'heure un peu bêtement, le silicone, mais toute la chirurgie esthétique, il y a beaucoup plus de clientes de chirurgie esthétique que de clients. Et peut-être que quand on parlera non plus d'aspect esthétique, mais vraiment d'augmentation, je ne serais pas surpris, moi, que les femmes y aillent plus volontiers que les hommes qui ont un problème avec leur corps, un problème d'invasion dans leur corps qui est tout bête. Hein. Et donc, je ne serais pas surpris hein, qu'à la fin... alors, effectivement, dans les figures romanesques, dans les figures fictives, je suis d'accord avec toi, c'est essentiellement des hommes, mais je pense que c'est un problème qui n'est pas lié à l'augmentation. Pour l'aspect concret, quand ça arrivera vraiment dans nos sociétés, je ne serais pas étonné que les femmes soient devant nous pour courir, se faire des implants...
Mais la causalité serait pas la même. Et moi, je parle pas de roman, hein. Je parle de ce que je vois dans les journaux, ce que je vois dans YouTube. Par exemple, tous les petits, tous les enfants à qui on offre en ce moment une prothèse, ce sont des petits garçons. D'accord. Mais j'en fais pas une croisade, ça m'est totalement égal, mais ce qui m'intéresse, c'est... non, mais égal au sens, justement. Ce qui m'intéresse, c'est que la finalité n'est pas la même. Si les hommes modifient leur corps, c'est pour des raisons de prouesse intentionnelle. Si les femmes modifient leur corps, c'est pour des raisons d'esthétique subies. Parce qu'il y a un poids qui s'étend sur des siècles qui font qu'il est normal qu'une femme modifie son corps pour des raisons d'esthétique.
Attends, d'esthétique ou de minoration? Parce que qu'est-ce qu'on fait de choses comme l'excision là-dedans? Parce que ça, c'est une sacrée modification du corps et elle est très ancienne. Tu vois, donc c'est systématiquement la minoration féminine. Enfin, la modification féminine, elle est minorante. Lorsque je mets des talons, je vais courir moins vite que vous.
Oui, c'est vrai. D'accord, donc l'homme est augmenté, la femme est diminuée, c'est ça?
Quelque part, peut-être, oui.
Je t'ai fait dire ça?
Or, ce qui...
Tu en profites pas ce moment-là.
Non, du tout. L'intérêt du transhumanisme, l'intérêt de l'homme augmenté, est un intérêt quantitatif et de prouesse. Et donc, on sent que c'est un intérêt masculin.
Ça, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et c'est pas propre à l'augmentation. C'est, je pense, c'est bien antérieur à ça.
Alors, la promesse majeure du transhumanisme, c'est quand même l'immortalité. Ça fait un sacré moment qu'on pense l'immortalité. Et chaque fois, je suis extrêmement surprise. Que ce soit dans Arthur C. Clarke, La cité des astres, ou dans Catherine Dufour, Le goût de l'immortalité, ou chez Raphaël Grani de Cassagnac, dans Thinking et tout, ça n'est pas une vision positive. Si elle n'est pas prédatrice, l'immortalité, d'une façon scientifique, vaguement, le vampire, déjà, c'est un immortel qui est prédateur, mais dans Jack Baron et l'éternité, par exemple, c'est aussi une prédation vampirique et c'est scientifique. Si ce n'est pas prédateur, donc, ça nous amène à la stase, à la régression, à la disparition de l'humanité. C'est dans ce film magnifique où Sean Connery est déguisé de façon absolument délicieuse.
Zardoz.
L'immortalité est clairement la fin. La fin définitive.
C'est-à-dire que comme il n'y a plus de fin, il faut en faire une autre, quoi.
Voilà. Alors, il
faut quand même rappeler que l'immortalité, au départ, est une punition. Le premier immortel, c'est le juif errant. Enfin, un des premiers immortels, c'est le juif errant. Le vampire est maudit. Donc, l'immortalité paraît peut-être souvent comme une espèce de graal à atteindre, mais dans la pensée, notamment religieuse ou para-religieuse, l'immortalité est une malédiction, soit infligée par Dieu lui-même, soit le résultat de causes supranaturelles, comme pour le vampirisme. Donc, il est intéressant de se demander qu'est-ce que ça va amener au niveau de l'image de soi de quelqu'un qui pourrait devenir immortel par sa propre volonté. Parce que c'est pareil, le vampire au départ est certes immortel, mais c'est une victime, il a été mordu. Donc à partir du moment où on imagine que l'immortalité puisse exister, soit sur le point de vue purement physique, c'est-à-dire effectivement rendre l'homme réparable, renouvelable, etc. à l'infini de manière à ce qu'il devienne immortel, soit sur le plan en quelque sorte informatique de la donnée, c'est-à-dire on abandonne son corps derrière soi, ce qui est l'augmentation ultime d'une certaine façon et la diminution ultime en même temps. Et donc, on s'upload et on devient immortel à partir du moment où un substrat, enfin un support de données, peut exister et nous recevoir et nous transférer. Et il y a peu de choses qui sont plus faciles à transférer qu'une information. C'est beaucoup plus facile de transférer de l'information qu'un corps humain, par exemple. Donc, à partir de là, on peut se demander quelle va être l'image de soi. Et là encore, on a des gens comme Egan qui ont réfléchi à la question. Quelle va être l'image de soi de quelqu'un qui, par exemple, n'aurait plus de corps? Ce qui nous renvoie à nouveau à l'idée de l'immortalité de l'âme. À partir du moment où on n'a plus de corps, qu'on est un esprit pur, est-on encore un être humain? Ou est-on plus qu'un être humain, ou moins? Et à partir de là, ça ouvre à nouveau un champ de possibles qui est, lui, justement, infini.
Pour répondre à ta question, moi je pense que une des raisons pour laquelle la plupart d'entre nous dépeignons une immortalité assez négative, c'est parce qu'on est un jaloux.
Les raisins sont trop verts, n'est-ce pas ?
Et deux, pauvres mortels, assez incapables, je pense, d'imaginer ce que ce serait vraiment que l'immortalité. Et donc très vite, enfin, en tout cas moi, quand j'ai inventé mes immortels pour Thinking Eternity, Eternity Incorporated, je me suis très vite dit, bon allez, je vais jusqu'au bout de l'histoire, j'imagine qu'au bout de très longtemps, ils s'emmerdent et ils se suicident. Parce qu'ils s'emmerdent, ils n'ont plus rien à faire, ils ont tout vu, ils ont tout fait. Ce qui est quelque chose que pas mal d'hommes font aussi, même en étant mortels. Hein. Donc je pense que c'est là le fait que c'est une espèce d'incapacité à imaginer ce que ce serait vraiment que l'immortalité. Alors on peut évidemment envisager des choses, et aussi une certaine jalousie. Il n'empêche que ces immortels, ils vivent quand même super longtemps, ils ont l'occasion de faire des tas de trucs, et je pense pas que quand on dit ça, c'est si négatif que ça. On leur prête quand même une longue vie plutôt sexy, quoi.
Dans ton cas, oui, mais dans Clark, le but du jeu, c'est quand même d'arrêter Diaspar.
Oui. Alors ça, je pense que c'est ce que tu disais, c'est le fait que les premiers immortels que l'homme a inventés étaient punis, quoi.
Alors oui, il y a Arachné, celle qui tissait mieux que Athéna, à qui on donne l'immortalité, mais sous la forme d'une araignée, il me semble, qui avait fini dans une cabane à jardin. Et il y a un jeune homme qu'une déesse a aimé, et je ne sais plus laquelle, j'ai oublié, et elle demande l'immortalité, mais pas l'éternelle jeunesse. Et ça, c'est le pendant, effectivement, de l'immortalité, c'est qu'il faut qu'on reste jeune. Et dans le transhumanisme, comment le jeunisme va-t-il se manifester ?
Ça dépend de quel transhumanisme on parle, évidemment, quoi.
Bah vas-y, définis. T'es là pour ça.
Non, mais ça dépend si ça dépend si on se transfère dans des ordinateurs. Dans ce cas-là, on a, comme tu disais, on a plus de corps. Et donc là, la question du vieillissement intervient plus, quoi. Soit on est dans des cyborgs, soit dans des robots ou des choses comme ça. Soit on vit même dans des mondes complètement virtuels. C'était mon hypothèse à moi. Et dans ce cas-là, effectivement, on vieillit plus. Alors moi, quand j'ai imaginé ce monde virtuel dans lequel des immortels, donc nous, hein, allons, je me suis dit, eh ben, on va tout essayer, quoi, parce que c'est un monde virtuel, donc on va pouvoir faire des interfaces différentes avec notre monde, complètement différentes des interfaces qu'on a nous. Alors, ils commencent par avoir les mêmes interfaces, donc ils se font d'abord un monde qui ressemble à ici, c'est le même, ils reproduisent fictivement la vision, Louis, et après ils partent, quoi. La première chose qu'ils font d'ailleurs, c'est changer de sexe, pour rigoler, pour essayer autre chose. Et après ils changent tout, ils deviennent, je sais pas, pure lumière, n'importe quoi. Donc ils se programment leur propre interface pour faire des expériences. Alors là on va très très loin, et c'est là que je pense qu'on arrive à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la vraie immortalité finale, on n'est pas capable de l'imaginer nous, on peut que conjecturer. Et c'est vraiment, il y a un frein très très fort à imaginer ce que ça pourra être que l'immortalité, quoi.
Donc là, le travail de la SF, ça serait d'imaginer une immortalité radieuse.
Oui, c'est un bon exercice.
Quelqu'un a envie de répondre? Fabien ?
Je ne suis pas du tout spécialiste de science-fiction, mais c'est vrai que nous, moi, quand j'ai tendance à réfléchir à l'immortalité, je pense beaucoup à effectivement, je n'ai pas lu ton bouquin encore, que l'issue, c'est effectivement le suicide. Moi, matériellement, en fait, on se dote de la capacité de se réparer, régénérer en permanence, la seule façon de débrancher la prise, c'est pour le coup débrancher la prise. Et après, donc, du coup, se pose aussi la question de la reproduction, c'est-à-dire qu'on peut se dire qu'une des choses assez sympathiques sur Terre, c'est de pouvoir donner naissance et d'élever des enfants, et puis et après tout, d'ailleurs, une fois cette chose faite, notre organisme décrépit. Donc c'est aussi physiologiquement la façon dont on est régi aujourd'hui d'un point de vue biologique. Donc c'est, pour moi, je dirais que c'est aussi une question de comment on voit la vie, et simplement accepter qu'on vieillisse, qu'on commence à avoir des cheveux blancs comme nous tous sur cette estrade, et que on accepte tout ça. Je pense que c'est pour moi plutôt la vision joyeuse, en fait, de l'évolution de toutes ces technologies et de toutes ces réflexions, plutôt que de se doter d'une capacité à vivre 1000 ans. C'est le Ray Kurzweil, un des des membres très influents chez Google, chargés de la prospective notamment, voilà, dit qu'aujourd'hui l'homme qui vivra 1000 ans est déjà né. À partir de là, voilà, si c'est effectivement la réalité, ou en tous les cas pour certains, ça pose à mon avis des questions extrêmement fortes.
Moi, ce qui me à la fois me fascine et m'agace un peu chez les tenants du transhumanisme, les moins critiques en tout cas, c'est qu'en quelque sorte, c'est l'idée que le corps augmenté, l'immortalité, etc., c'est forcément bien. Moi, c'est ça qui me pose problème. C'est comme tous ces gens qui annoncent que la réforme en soi, c'est bien. Moi, je suis désolé, le jour où on a réformé la société de manière à décider que les Juifs étaient envoyés en camp de concentration, c'était certes une réforme, mais je suis pas sûr qu'elle était bonne, quoi. Donc, il y a toujours une valeur qu'il faut assigner aux choses, et on est là pour réfléchir à ça en tant que créatif, philosophe, écrivain, simple amateur de science-fiction ou autre. Mais là où ça devient intéressant et là où il y a une espèce de nécessité, pour employer des gros mots, morale voire éthique, c'est de se demander quelle est l'utilisation qu'on fait d'une technologie, d'une augmentation, d'un téléchargement de la conscience de soi, etc. Et c'est là effectivement que la différence devient absolument critique entre quelque chose qui est réparateur, quelque chose qui est réparateur, qui donc en quelque sorte corrige un défaut, un problème, et quelque chose qui est autre, qui est différent, qui est vraiment maintenant, on va se modifier, on va se transformer, mais c'est toujours la même question. Pourquoi faire ? On sait très bien, par exemple, qu'à partir du moment où une technologie apparaît, il va se passer deux choses. Elle va être monétisée, premièrement, et ensuite, elle va être utilisée pour le sexe. On sait très bien qu'à partir du moment où on invente le cinéma, il va y avoir du porno. À partir du moment où on invente la vidéo, il va y avoir du porno. On invente le Minitel rose. On invente Internet, 90% de ce qui est présent sur Internet, je ne sais pas si la statistique est vraie.
Et le latex et le silicone, c'est bien aussi.
Voilà, c'est les sites de cul. Donc, c'est évident que si l'homme s'augmente, et surtout l'individu masculin, je vois très bien, sans trop faire un grand effort d'imagination, qu'est-ce qu'il va augmenter, pour être précis, quoi. Enfin, pour rester dans le vague. Donc, à partir de là, c'est là que toute la problématique s'établit. Est-ce qu'on s'augmente pour devenir meilleur, ou est-ce qu'on s'augmente simplement pour devenir plus ? Et quand on devient plus plutôt que meilleur, on introduit une thématique de pouvoir. Et à partir du moment où... C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai pas osé répondre sur le masculin, le féminin, etc. Moi, pour moi, les gens ont tendance à s'augmenter. Si les gens qui ont tendance à s'augmenter ont tendance à être plus des hommes que des femmes, c'est parce qu'ils savent déjà que de toute façon, ils ont le pouvoir et qu'ils vont l'avoir encore plus. Enfin, en tout cas, c'est une de mes craintes.
Cela étant, il faut quand même le dire. Size doesn't matter.
Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Tous les progrès, tels qu'ils soient, et l'augmentation n'échappera pas à la règle, ne sont ni bons ni mauvais au départ. C'est l'utilisation qu'on en fait après qui les rendent bons ou mauvais. Je suis aussi d'accord avec toi sur le sexe. J'ai un personnage qui est précisément augmenté de la façon dont tu l'as imaginé. Donc.
Eros appelant forcément Thanatos. Moi, ce qui m'intéresserait vraiment, parce que tout ce qui a été dit... sur l'immortalité, le premier récit écrit de l'histoire de l'humanité, l'épopée de Gilgamesh, à la fin, il refuse l'immortalité. Moi, le truc qui me botterait vraiment, c'est pas tellement tout ce qui a été dit, mais ce serait de pouvoir mourir. Moi, j'adorerais pouvoir dire « je suis mort », c'est-à-dire, phrase que personne ne peut dire ici, j'adorerais qu'on mette en point une science, une technologie qui fait qu'on pourrait mourir, puis revivre après. Et là, je pense que vraiment, c'est le destin de l'être humain qui serait augmenté. En plus, ce serait un destin parfaitement égalitaire. Et ça me botterait vraiment.
Tu sais, Xavier, moi, je suis sorti assez tard hier soir. Je suis mort, là.
Mais et tu ne revis pas.
Dans le Mahabharata, tu as un prince qui est aimé des dieux et à qui les dieux donnent le choix de sa propre mort, ce qui fait que ça le rend potentiellement immortel. Et du coup... il va choisir sa mort, mais par amour, en fait, pour faire plaisir à une femme qui le hait parce qu'il l'a refusée en mariage. un jour très longtemps avant. Là-dessus, il nous reste moins de 4 minutes. Est-ce que le public a envie de poser des questions? Le public a envie de poser des questions. Toi, t'as envie, mais là...
Oui, bonjour. Je voulais vous demander ce que vous pensez du dopage, qui est en quelque sorte une forme de drogue augmentée. Donc, il y a des études qui ont montré récemment que le dopage, par comprimé ou quelle que soit la manière, en fait, était permanent et ne pouvait pas se perdre. Enfin, il y a des études qui ont montré ça. Et pour en revenir à ce que disait monsieur là-bas, le Viagra en tant que dopage...
Justement, le Viagra féminin est très, très contesté, hein, ouais. Juste pour revenir...
Oui, bah, le dopage, c'est une première forme d'augmentation chimique qui est pas l'augmentation mécanique ou cybernétique qu'on a en place. Pour moi, tout ça, ça rentre complètement dans la catégorie qu'on disait tous. C'est encore une fois une espèce de progrès humain. On apprend avec la chimie à modifier des choses dans notre corps. Ce qu'on en fait, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bien, c'est à la société d'en décider. Elle a décidé que pour le sport, c'était pas bien. Elle a mis des limites précises sur... Et des limites avec qui, dans certains sports, la plupart des sportifs essayent de jouer, ils essayent d'être juste en dessous des dosages. Enfin, bon, voilà, donc c'est un travers évident.
Alors que dans les affaires, c'est plutôt bien.
Ouais.
D'autres questions?
Oui, vous avez évoqué tout à l'heure le. Dans le transhumanisme, on va dire de type ordinateur, le fait qu'il n'y avait pas de vieillissement. Mais je pense que justement, il y a un vieillissement qu'on occulte, c'est que l'ordinateur, il n'est pas infaillible, il peut tomber en panne. Et quelque part, la femme immortalité, c'est quand le système déraille et se casse la gueule aussi.
Il peut tomber en panne, mais on peut avoir une redondance, on peut avoir des données dupliquées, etc. Alors évidemment, là, ça devient intéressant parce que on a par exemple l'idée que est-ce qu'on est toujours la même personne si on est son propre clone, que ce soit d'ailleurs physiquement ou au niveau de la donnée. Est-ce que quelqu'un qui par exemple serait désintégré pour être téléporté sous forme de données et serait réintégré après à l'arrivée, est-ce que c'est la même personne? Ce n'est pas le même corps. Est-ce que c'est la même personne? S'il y a une continuité de l'esprit, de la conscience, j'aurais tendance à dire que oui, c'est la même personne. Mais on peut en débattre. Donc c'est un terrain fécond pour tout un ensemble, au strict minimum, de sujets, de textes de science-fiction. À partir du moment où on réalise ce genre de choses, et visiblement, bon, on n'en est pas là, hein, mais on commence à envisager la possibilité de réaliser un certain nombre d'approximations minorées de ces choses-là, oui, on va se poser des questions tout à fait différentes sur le plan sociétal, comme le soulignait à nouveau Raphaël, quoi.
Et ça, souvent on fait la limite entre éternité et immortalité. Donc, est-ce qu'on peut vivre indéfiniment dans un ordinateur si l'ordinateur marche? Et est-ce que quelqu'un, de façon violente, peut arrêter la vie? Donc ça, c'est l'immortalité. On se prend un coup, et même si on est immortel, on meurt quand même. Et évidemment, si jamais on va dans ces scénarios de transhumanisme dans des ordinateurs, ça va être la question évidente que ces gens-là, on va dire, vont se poser, et ils vont tout faire pour qu'on n'atteigne pas la prise de l'ordinateur, évidemment.
Et ce sera le mot de la fin, car c'est l'heure, et Raphaël Granier de Castagnac et moi devons courir. Je vous remercie, messieurs.